Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de textes tirés du média suivant. La presse. Au programme, dans le calepin de l'éditeur adjoint. Des honoraires de 100 000 $ pour un seul patient. Et hey, ChatGPT, Michel C. Auger est vivant. Bonne écoute.
Dans le calepin de l'éditeur adjoint, une fusillade commise par une femme. Un texte de François Cardinal, paru le 2 avril 2023 dans La Presse. La confusion était grande lundi soir dernier, au moment où nous parvenaient au compte-gouttes les détails de la fusillade qui a coûté la vie à 6 personnes dans une école de Nashville. Si vous avez suivi les événements en temps réel, vous avez probablement remarqué que la police a d'abord attribué l'attaque à une jeune femme et qu'elle s'est amendée quelques minutes plus tard en évoquant le geste d'une personne transgenre. Or, cette confusion a plongé les salles de rédaction dans d'intenses questionnements sur l'identité du tueur, sur la façon de le présenter et sur le choix des mots à employer. Un questionnement auquel il est intéressant de le noter, les médias ont répondu différemment. Ainsi, près d'une semaine après le drame, la question se pose toujours « Doit-on écrire que l'auteur de la fusillade était une femme ?» Lorsque survient un drame, je vous l'avoue, les médias travaillent intensément pour couvrir l'événement avec un œil sur les autres médias. Partout dans les salles de rédaction, il y a des moniteurs et téléviseurs qui diffusent les nouvelles de la concurrence, car on veut s'assurer d'avoir tous les détails nécessaires pour comprendre ce qui se passe. Normal, une couverture en temps réel, c'est une couverture en perpétuelle évolution. À ce titre, la fusillade de Nashville est un bon exemple en raison de l'identité imprécise du tueur. Lorsque la police a parlé d'une femme, certains médias ont aussitôt analysé les données des tueries passées, presque exclusivement perpétrées par des hommes cis, pour faire ressortir le caractère exceptionnel de l'événement. Puis, aussitôt qu'il a été question d'une personne transgenre, ces textes ont disparu aussi vite qu'ils avaient été écrits, et la confusion s'est installée, ce qui a incité les médias à regarder avec attention ce que faisaient les autres médias. Toute la soirée, le directeur principal de l'information, Jean-François Bégin, et moi, on s'est posé 1000 questions en suivant d'heure en heure l'évolution des expressions privilégiées. L'AFP évoquait un transgenre. NBC parlait en ouverture de bulletin d'une femme transgenre, donc née homme, mais qui s'identifie comme femme. Alors que le journal local parlait d'un homme transgenre, né femme, mais s'identifiant à un homme. À Radio-Canada, c'était simplement un individu. Au journal de Montréal, on parlait d'une femme. Et à la presse, on a d'abord choisi de dire que c'était une personne qui s'identifiait comme transgenre pour finalement évoquer un homme transgenre, c'est-à-dire une personne née femme dont l'identité de genre est masculine. Mais donc, c'est une femme qui a tué ou pas? La question est évidemment délicate en cette ère de polarisation croissante, alors que les États-Unis sont secoués par une guerre culturelle entourant les transgenres, les dragues et les thérapies de conversion. D'où la nécessité d'être prudent avec cet événement qui a bien sûr déchaîné les républicains les plus radicaux, comme Marjorie Taylor Greene, dont le compte Twitter a été suspendu à la suite d'un statut évoquant « le jour trans de la vengeance ». La première question qui se posait donc, est-ce même d'intérêt public de préciser dans la couverture médiatique qu'Audrey Hale était une personne transgenre? Oui, certainement, car on doit avoir tous les détails pour comprendre ce qui s'est passé. Les médias n'ont pas pour rôle de taire ou de censurer des détails sous prétexte qu'ils peuvent être détournés, et ils ne doivent pas le faire. Et pour se convaincre de la pertinence de préciser qu'il s'agissait d'une personne transgenre, il suffisait d'écouter le lendemain de la tuerie le psychiatre Gilles Chamberlain sur les ondes du 98,5 évoquer la possibilité d'une prise de testostérone comme facteur de risque. Deuxième question. Si Audrey Hale s'identifiait comme homme sur les réseaux sociaux et utilisait des pronoms masculins sur son profil LinkedIn, peut-on dire que le tueur était un homme? Pas vraiment. Surtout pas en l'absence de détails sur le tueur et sur l'évolution de son identité de genre. Et dernière question, donc, peut-on simplement conclure que la tuerie est l'œuvre d'une femme? Il n'y a pas unanimité ni réponse définitive. Certains médias ont répondu par l'affirmative, comme le Journal de Montréal, qui parle d'une suspecte et d'une tireuse, et le 98,5 FM qui évoque une femme responsable d'une tuerie de masse. D'autres ont choisi d'utiliser des mots épicènes, c'est-à-dire des mots qui désignent à la fois un homme et une femme sans se mouiller davantage. Le Devoir écrit que c'est un transgenre, sans en dire plus dans son texte initial. Radio-Canada évoque une personne et un individu en ajoutant que la police a évoqué une personne transgenre, sans précision sur l'identité de genre. À la presse, le premier titre de notre texte en format dernière heure évoquait « Trois enfants et trois adultes tués par une jeune femme ». Nous l'avons rapidement changé pour un titre plus neutre. Une fois que la police a corrigé l'information initiale, nous avons choisi une position mitoyenne en quelque sorte. Nous précisions que l'assaillant était un homme transgenre, donc né femme, mais qui s'identifiait comme homme au moment du drame. Meilleure façon, à notre avis, d'informer les lecteurs de façon impartiale et de leur permettre de comprendre ce qui est survenu lors de cette soirée haute en confusion. C'était, dans le calepin de l'éditeur adjoint, une fusillade commise par une femme, un texte de François Cardinal, paru le 2 avril 2023 dans La Presse. Des honoraires de 100 000 $ pour un seul patient. Un texte de Stéphanie Grandmont, paru le 1er avril 2023 dans La Presse. De quelle dangereuse fièvre les pharmaciens sont-ils atteints? Ce n'est pas une blague. Certains exigent des honoraires de plus de 100 000 $ pour un seul patient. Par exemple, une pharmacie a prélevé des honoraires annuels de plus de 140 000 $ pour une seule prescription de Procysbi, un médicament qui retarde l'apparition de l'insuffisance rénale chez les patients atteints d'une maladie rare. Un autre professionnel a facturé des honoraires annuels de 160 000 $ à un patient qui avait besoin de Trikafta, un traitement pour la fibrose kystique. Précisons bien. Il s'agit seulement des honoraires du pharmacien pour ses ordonnances dont la facture totale peut atteindre un demi-million de dollars. Ces chiffres exclusifs nous ont été fournis par le Bureau québécois de l'Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes, ACCAP, qui a mené une enquête en 2022 sur cette inquiétante tendance. On veut bien croire qu'il s'agit de médicaments onéreux qui doivent être manipulés avec soin, parfois dans un environnement stérile. Que les pharmaciens doivent assumer le risque en cas de perte ou de contamination, mais franchement, des honoraires aussi élevés, ça frise le délire. Il est plus que temps que Québec s'en mêle, car la pérennité même de notre système d'assurance médicaments universel est en péril. Ces cas spectaculaires d'honoraires excessifs sont symptomatiques du mal profond qui ronge le système d'assurance médicaments du Québec. Ils démontrent à quel point les assurés du privé sont victimes d'une injustice systémique par rapport à ceux couverts par la RAMQ. Pour l'ensemble des médicaments vendus au Québec, les honoraires moyens des pharmaciens sont de près de 18 $ au privé par rapport à environ 9 $ au public où les honoraires sont fixes. C'est carrément le double. Cela fait en sorte que le coût global des médicaments est 18,8% plus élevé pour les assurés du privé que ceux de la RAMQ. Au total, le privé paie donc 750 millions de trop chaque année. Loin d'une bagatelle. Or, les médicaments onéreux, de plus en plus fréquents, exacerbent le problème. Prenons les traitements qui coûtent plus de 10 000 $ par année. Les pharmaciens se permettent d'imposer des honoraires moyens de 328 $ par prescription aux assurés du privé, selon l'ACAP. C'est 40 fois plus que les honoraires facturés aux assurés de la RAMQ. Ce grand écart est aussi disgracieux qu'inadmissible. L'écart découle du fait que les assureurs privés sont menottés. Ils sont tenus de rembourser tous les médicaments couverts par le régime public, mais ils n'ont aucun contrôle sur les honoraires des pharmaciens, contrairement à la RAMQ, qui négocie un prix fixe. Plus Québec négocie serré, plus les pharmaciens se reprennent du côté privé. Cet interfinancement est malsain. Les pharmaciens répliqueront que c'est le libre marché qui s'applique du côté privé, que les assurés peuvent magasiner, mais en réalité, les assurés sont peu sensibilisés au prix des médicaments, dont ils ne paient que 10 ou 20% à la caisse. Sans compter que leur contribution est plafonnée à 1 161 $ par année. Au-delà de ce montant, les assureurs ramassent toute la facture qu'ils n'ont pas tellement avantage à réduire puisque leurs frais sont établis en pourcentage du montant des réclamations. Plus les réclamations montent, plus les primes des assurés grimpent. Mais encore là, l'impact n'est pas si visible, car la prime est prélevée sur leur paie et l'employeur en absorbe souvent une partie. Quant aux employeurs, ils n'aiment pas trop se mettre le nez dans les questions de santé de leurs employés, ce qui explique leur manque de mobilisation. Au bout du compte, la concurrence dans le domaine de la pharmacie est un mirage, surtout pour les médicaments onéreux dont la distribution est contrôlée par une poignée de pharmacies qui demandent la lune. Alors, quel est le remède contre les honoraires excessifs? Une plainte à l'Ordre des pharmaciens du Québec? Ne comptez pas trop là-dessus. Depuis 10 ans, l'Ordre n'a sanctionné que 2 pharmaciens pour des honoraires déraisonnables. Une action collective contre les pharmaciens? C'est déjà en cours, mais le processus pourrait prendre des années. Fondamentalement, c'est à Québec de revoir le système. 2 options sont envisageables. Tout d'abord, le gouvernement pourrait plafonner les honoraires des pharmaciens en établissant une grille qui tiendrait compte de l'intensité du travail requis. Mais cela risque d'envoyer un mauvais signal. Tous les pharmaciens seront tentés de s'accoter sur ce plafond, ce qui fera monter les prix encore plus. Rendu là, pourquoi ne pas imposer les mêmes honoraires au privé et au public? Les pharmaciens crieraient à la nationalisation, mais au moins, ce serait enfin équitable. Autrement, le gouvernement pourrait permettre aux assureurs privés de négocier des ententes avec les pharmaciens, comme cela se fait ailleurs au Canada. Et ça marche. En Ontario, les prix des médicaments sont 20 % inférieurs. En ce qui concerne les médicaments onéreux, on doit aussi se demander si la facture ne devrait pas être toujours assumée par le public et si le traitement ne devrait pas être offert à l'hôpital pour limiter les risques de perte. Chose certaine, il faut agir. Sinon, le système va craquer. Le poids des primes devient si lourd que certains régimes privés songent à se faire harakiri. Par exemple, lors d'une récente consultation menée pour le programme d'assurance des retraités du syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, près du tiers des personnes concernées, 31%, ont voté pour son abolition. Il faut dire que la prime de ceux qui ont moins de 65 ans et qui sont donc forcés par la loi d'adhérer au régime s'élève à 3 048 $ par année. C'est 4 fois plus que celle de la RAMQ, qui n'est que de 710 $ parce que Québec subventionne une partie de la facture à même son fonds consolidé. Même si les régimes privés ont une couverture un peu plus large, il devient tentant pour les assurés de mettre fin à leur régime afin de migrer vers la RAMQ. D'ailleurs, 151 000 assurés se sont ajoutés au régime public depuis 10 ans, une augmentation 3 fois plus forte qu'au cours des 10 années précédentes qui découle en partie de l'abandon par des employeurs de leur régime d'assurance collective. Ce mouvement va s'accentuer au cours des prochaines années si Québec ne fait rien. Alors, même si le ministre de la Santé, Christian Dubé, en a plein son assiette avec le projet de loi pour améliorer l'efficacité du réseau de la santé, il doit aussi s'attaquer aux honoraires déraisonnables des pharmaciens. En savoir plus, 42 616 $. En 2021, les 20 médicaments les plus vendus au Canada, qui représentait près de 40% des ventes, avait un coût de traitement annuel médian de 42 616 $, un montant 60 fois plus élevé qu'en 2012 selon le Conseil d'examen des médicaments brevetés. C'était des honoraires de 100 000 $ pour un seul patient, un texte de Stéphanie Gramont, paru le 1er avril 2023 dans La Presse. Hey, ChatGPT, Michel C. Auger est vivant. Un texte de Michel C. Auger et Alexandre Sirois, paru le 1er avril 2023 dans La Presse. Michel C. Auger a questionné cette semaine ChatGPT à son sujet. On lui a répondu qu'il avait été assassiné il y a plus de 20 ans. Le robot conversationnel a aussi inventé de toutes pièces des détails sur la carrière des membres de l'équipe éditoriale de La Presse. Dans la foulée de ces dérapages, notre chroniqueur a échangé avec l'éditorialiste Alexandre Sirois au sujet des failles de l'intelligence artificielle. Michel C. Auger. J'étais curieux. Je voulais voir ce que ChatGPT pouvait bien dire de moi. Quelle ne fut pas ma surprise? Michel C. Auger était un journaliste québécois bien connu pour son travail en tant que chroniqueur politique et journaliste d'enquête. Il est né le 21 juillet 1950 à Montréal. Au fil des ans, il a notamment couvert l'affaire de la Commission Charbonneau, une enquête sur la corruption dans l'industrie de la construction au Québec. Malheureusement, Michel C. Auger a été assassiné le 8 septembre 2000 par un homme armé alors qu'il quittait les studios de CKAC. Je suis habitué à la confusion, il y a 2 journalistes nommés Michel Auger. Mon aîné fut l'un des plus grands reporters à couvrir le crime organisé au Canada. Comme il était plus âgé que moi, quand j'ai commencé en journalisme, j'ai tout de suite ajouté mon initiale à ma signature, justement pour éviter toute confusion. Mais surtout, nous sommes devenus amis. Alors, je ne suis pas surpris que ChatGPT nous ait confondus, mais l'amalgame de nos biographies respectives contient tellement d'erreurs qu'on en rirait si ce n'était pas un peu triste de voir ce que l'intelligence artificielle fait de nous. D'abord, je ne suis pas né en 1950, mais Michel non plus, 1947. Je suis né à Montréal, mais lui, c'était à Shawinigan. Ça commence mal, mettons. Alexandre Sirois. Toi, assassiné? On nage en plein délire. À ce que je sache, tu es la première personne à avoir vécu une telle expérience. ChatGPT n'offre pas d'avis de décès à des personnes vivantes sur une base régulière. Heureusement. N'empêche que ces hallucinations sont fréquentes. On l'a questionné sur les membres de notre équipe éditoriale. S'il y a parfois du vrai dans ses réponses, beaucoup de choses ont été inventées de toutes pièces. On a ainsi appris que notre éditorialiste en chef, Stéphanie Grammont, a travaillé à la presse jusqu'à sa retraite en 2020. Pour ma part, selon ChatGPT, je travaille actuellement au Devoir. Philippe Mercure a été correspondant parlementaire à Ottawa pour RDI. Nathalie Collard est l'auteur de plusieurs livres sur les arts et la culture, dont « Danser avec la vie » et « Le corps en spectacle ». Vincent Brousseau-Pouliot a travaillé pour Radio-Canada et a également été correspondant à l'étranger pour différents médias canadiens. Quant à Serge Chapleau, il aurait créé le personnage fictif « Le petit gars de Shawinigan » qu'il utilise pour commenter l'actualité politique et sociale. Tout ça est faux. Michel Séauger. C'est ce qui m'inquiète le plus. C'est le manque d'intelligence de l'intelligence artificielle. On devrait être rendu au point où l'IA serait capable de vérifier ces informations ou au moins de mettre des faits en rapport les uns avec les autres. Mais selon ChatGPT, j'aurais couvert, ou est-ce Michel, la commission Charbonneau. Je ne l'ai pas couverte, et à ma connaissance, Michel non plus, puisqu'il était déjà à la retraite. Mais plus troublant encore, puisque je suis mort en l'an 2000, comment aurais-je pu couvrir une commission qui a commencé ses travaux en 2011? C'est pas juste une erreur. C'est montrer que l'IA a encore de grandes lacunes factuelles. On ne parle pas ici d'analyse. Alexandre Sirois. Je ne sais pas si ça peut te rassurer, mais je viens tout juste de questionner ChatGPT-4 à ton sujet. Je parle ici de la nouvelle version du robot conversationnel développé par l'entreprise californienne OpenAI. Les experts disent, tous, que la vitesse à laquelle ces robots s'améliorent est exponentielle. Résultat, il sait que tu n'es pas mort. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que ChatGPT-4 raconte encore plein d'âneries. Tu serais, selon lui, un journaliste spécialisé dans la couverture des affaires judiciaires et de sécurité nationale, et tu aurais déjà travaillé pour le réseau TVA ou tu aurais animé l'émission d'affaires publiques « Les coulisses du pouvoir ». Bref, il y a du progrès, mais ce robot a encore des croûtes à manger. Michel Séauger. Merci de me ressusciter. Mais je veux revenir à la mort de Michel, sans « C », avait-il coutume de dire. Parce que là, l'intelligence artificielle montre de belles dispositions pour la fiction. Non seulement il n'a pas été assassiné, mais l'attentat contre sa vie, qui a bel et bien eu lieu, n'était pas alors qu'il quittait les studios de CKAC, mais dans le stationnement du journal. En passant, nous avons tous les deux travaillé plusieurs années au Journal de Montréal, ce qui n'est nulle part mentionné. Mais ChatGPT en rajoute une couche. L'enquête sur sa mort a duré plusieurs années et plusieurs personnes ont été inculpées dans le cadre de cette affaire. Mais non, personne n'a été inculpé. Les auteurs des attentats n'ont jamais été trouvés. En fait, on devrait dire qu'ils n'ont jamais été formellement accusés. S'il y a quelque chose qui m'embête vraiment dans tout cela, Ce n'est pas que quelques faits puissent avoir été erronés. Comme journaliste, on a tous fait des erreurs, alors on ne peut pas jeter la pierre trop vite. Mais lorsque l'IA n'a pas les faits, elle les invente. Ça me dérange vraiment. Alexandre Sirois. Le Wall Street Journal a récemment révélé que deux chercheurs de Google ont tenté de convaincre les dirigeants de cette compagnie en 2021 de rendre public un robot conversationnel de type ChatGPT. On leur a dit non. Notamment parce que l'on considérait chez Google que le programme ne répondait pas aux normes de sécurité et d'équité des systèmes d'intelligence artificielle. Mais en novembre dernier, la compagnie OpenAI a ouvert la boîte de Pandore en rendant public ChatGPT. Depuis, on assiste à une course effrénée entre les géants du numérique. On croirait qu'ils jouent maintenant à qui pisse le plus loin. Et on commence à en faire les frais. C'est entre autres choses pour ça qu'une série d'experts, dont le Montréalais Yoshua Bengio, viennent de demander aux entreprises qui conçoivent ces systèmes de mettre leurs travaux sur pause pendant au moins 6 mois. Et vendredi, l'Italie a bloqué l'utilisation de ChatGPT pour des craintes liées à l'utilisation des données des utilisateurs. Ces outils d'intelligence artificielle ont de nombreuses qualités. Un potentiel formidable aussi, mais ils ne sont pas encore au point. Ta fausse mort en est une démonstration sans appel. C'était « Hey, ChatGPT, Michel Séauger est vivant », un texte de Michel Séauger et Alexandre Sirois, paru le 1er avril 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.